les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Du 25 novembre au 6 décembre se tient à Marseille la quinzaine pour la convergence des initiatives citoyennes du territoire. Un temps fort pour donner la voix aux citoyens organisé par l'association La Plateforme. C'est lors d'un moment à la maison théâtre La Cité que nous avons rencontré Patrick Vivret, philosophe, auteur incontournable pour ceux qui militent pour la transformation de la société, il intervenait pour témoigner du trépied des luttes contemporaines autour des questions écologiques et citoyennes. Résistance, expérimentation et vision transformatrice. Patrick Vivret, le titre de la rencontre, c'était « L'urgence de converger vers les rêves, résistance, expérimentation, vision transformatrice ». Pour vous présenter très rapidement, vous êtes philosophe et auteur, entre autres, de reconsidérer la richesse, et puis « Et pourquoi ça ne va pas plus mal ». Parmi les nombreux ouvrages qu'on peut lire de vous, il y a un compagnonnage avec un auteur, qui est Edgar Morin. Il vous accompagne souvent dans les livres que vous publiez. Peut-être quelques mots sur ce compagnonnage, non pas forcément comment vous l'avez rencontré, mais plutôt comment sa pensée vous nourrit.
Ben, parce que Edgar Morin, c'est à la fois une pensée pluridisciplinaire. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'époque où j'étais rédacteur en chef de la revue Transversale Science Culture. Donc, évidemment, Edgar est un formidable défricheur de la pensée pluridisciplinaire. Et puis, c'est aussi, plus récemment, le penseur de la métamorphose. Et je crois que la période historique que nous vivons n'a rien à voir avec une crise. Une crise, c'est conjoncturel et on pense revenir à l'état antérieur de la crise. C'est véritablement une immense mutation et qui est de l'ordre de la métamorphose et qui, comme dans le cas de la métamorphose du papillon, suppose aussi que les forces de l'imaginaire, dans la métamorphose du papillon, on appelle ça le rôle des cellules imaginales, atteignent une masse critique suffisante pour débloquer l'imaginaire et s'opposer aux anticorps qui, à cause des logiques de peur, restent dans le blocage du système dominant. Donc Edgar est un formidable pourvoyeur d'espérance, tout en étant en même temps dans la lucidité tragique. Il incarne bien ce que disait Antonio Gramsci sur la nécessité d'allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté.
Vous avez commencé votre intervention en parlant de la démesure, de l'hubris grec. Souvent, cette critique de « nous sommes dans une société de la démesure », elle est souvent associée avec un appel, disons, à de la mesure, à retrouver la mesure. Et c'est aussi retrouver quelque chose aussi d'une ascèse. Mais ce qui est très fascinant, ce qui est très intéressant, c'est que vous associez un couple, c'est-à-dire que pour vous, démesure égale aussi mal-être.
Oui, oui. Ce qu'on voit bien sur le plan personnel, si une personne est boulimique, alcoolique, toxicomane, c'est un indicateur de mal-être. Ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est vrai aussi sur le plan sociétal. Par exemple, sur les marchés financiers, où la démesure se traduit par le fait que moins de 3% des transactions financières quotidiennes correspondent à de l'économie réelle, le reste c'est de la spéculation. Eh bien, si on lit le Wall Street Journal, donc vous voyez, on n'est pas obligé de trouver uniquement la presse alternative. On va trouver cet éditorial étonnant qui dit « Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique ». C'est à peu près la définition de ce qu'on a appelé pendant longtemps la psychose maniaco-dépressive. Donc c'est un état de mal-être qui est associé à de la démesure. Et c'est très important de le comprendre sur le plan de l'analyse, parce que du point de vue de la perspective positive alternative, ça permet de comprendre pourquoi il nous faut associer, comme le fait par exemple Pierre Rabhi, la sobriété et l'art de vivre, la sobriété heureuse. Parce que si on ne traite que la démesure sans traiter la question de ce que le Forum social mondial de Belém a appelé la transition vers des sociétés du buen vivir, du bien vivre, ben c'est comme de proposer à un toxicomane une cure de sevrage. S'il n'a pas une espérance positive de mieux-être, il restera avec son addiction. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'art de vivre, le buen vivir, l'art de vivre à la bonne heure devient un enjeu politique et sociétal tout autant qu'un enjeu personnel. Ce que je dis souvent, choisir d'être heureux est un acte de résistance politique.
Mais ce choisir d'être heureux, cette volonté du bien vivre, nécessite quand même en chacun de nous que nous trouvions une éthique solide.
C'est la raison pour laquelle, là c'est un autre forum social mondial, celui de Porto Alegre, a mis en évidence ce qu'on a appelé l'axe TPTS. TPTS, c'est transformation personnelle et transformation sociale doivent aller de pair. Nous sommes nos premiers laboratoires de la transformation mondiale, parce que par exemple, sortir de nos logiques dépressives qui créent ensuite par compensation du rapport de rivalité, du rapport de prédation à la nature, du rapport de guerre intérieure, sortir de ces logiques dépressives est une des conditions d'un mouvement citoyen qui soit capable de véritables transformations sociétales.
On aurait tendance à croire aujourd'hui que nous sommes dans une société qui a été appelée comme le biogouvernement, c'est-à-dire un gouvernement des conduites pour plus de vie, disons pour la vie. Alors que, à vous entendre, on a le sentiment qu'on est plutôt d'un gouvernement de la mort.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant de relire les textes des années 30, que ce soit celui de Freud sur Malaise dans la civilisation, où il faisait un appel à l'éros face aux logiques mortifères, ou celui moins connu de Reich, William Reich, dans son livre sur psychopathologie du fascisme, où il mettait en évidence ce qu'il appelait la peste émotionnelle, comment les logiques de peur, de repli identitaire produisent en même temps des fascinations pour les logiques autoritaires, évidemment pour des logiques de bouc émissaire. Donc quand on comprend ça, on voit bien que les systèmes de domination, et notamment celui de l'oligarchie financière mondiale, sont des systèmes qui reposent sur les logiques de peur et les logiques de dépression. Et inversement, les logiques alternatives, elles ont besoin d'être dans l'éros face à Thanatos. Moi, c'est ce que j'appelle la nécessité d'une stratégie érotique mondiale.
Et c'est ce que vous dites, qu'au sens où il nous faut imaginer un Sisyphe heureux.
Oui, parce que en même temps, c'est une phrase fameuse d'Albert Camus, il nous faut imaginer Sisyphe heureux, c'est-à-dire évidemment tout ce mouvement qui est par exemple ce mouvement qui part des territoires locaux pour monter de plus en plus vers ce territoire mondial et promouvoir la citoyenneté terrienne, et considérer que ce qu'on appelait après les années de guerre l'utopie de la citoyenneté mondiale est en train de devenir un objectif fondamental des mouvements de citoyens, c'est la transformation d'une utopie idéaliste en utopie concrète. Et pour réaliser ce type d'utopie, on a besoin de l'énergie créatrice qui associe justement dans le trépied du rêve qu'évoquaient les états généraux de l'économie sociale et solidaire, la résistance créatrice contre l'insoutenable, la vision transformatrice, le V, qui débloque l'imaginaire, et sans attendre, l'expérimentation anticipatrice, le E, qui fait que dans l'ici et maintenant, on peut faire des AMAP, on peut faire des circuits courts, on peut faire des monnaies locales, on peut faire de la finance solidaire, on peut faire de l'habitat partagé. Et à ce moment-là, l'alliance des trois éléments, résistance, expérimentation, vision, a aussi une capacité contagieuse à l'égard des autres acteurs.
Et est-ce qu'on peut dire que, par exemple, est-ce que vous soutiendrez que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est une rêve ?
Sous la condition qu'elle soit festive, ludique et créatrice. C'est-à-dire, dans ce type de situation, il y a aussi des logiques mortifères du côté militant. Par exemple, comprendre que le conflit est une alternative à la violence est un enjeu fondamental. Quand on confond le conflit et la violence, on se retrouve soi-même dans une logique mortifère, et comme de toute façon, en termes de rapport de force et d'efficacité, l'establishment a toujours plus de moyens en termes de violence que les mouvements contestataires, on se retrouve piégé. Donc c'est très important que tous ces mouvements-là, qui sont fondamentaux du point de vue des objectifs alternatifs, apprennent aussi à distinguer le conflit et la violence.
Qu'est-ce que ce serait le conflit ?
Ben, la conflit, c'est effectivement de s'opposer, y compris de s'opposer radicalement, mais de considérer que éviter de se laisser piéger dans des manifestations par des acteurs dont une bonne partie d'ailleurs sont manipulés par la police, arrêter de croire que ce sont des acteurs qui sont du côté de ces mouvements-là.
On s'en est pour lécher de la vache enragée. On s'en est empiffré, on en a dégusté de la vache enragée. La vache vénéneuse, la vache contagieuse, la vache insomniaque, la vache paranoïaque, la vache mal lavée, la vache mal aimée, qui a l'œil au beurre noir et le regard hagard. La vache enragée. Venez, faisons la ronde, y en aura pour tout le monde. Venez, y a pas de raison, venez voir comme c'est bon. Faut pas faire les avares, faut que tout le monde ait sa part. Faut que tout le monde ait son jour, faut que tout le monde ait son tour. De vache enragée. Et si vous n'en voulez pas, on vous fera monter une bière avec des poignées d'argent.
Patrick Vivray, philosophe. Vous parlez beaucoup, vous employez beaucoup le mot de force de vie. Et finalement, par exemple, dans l'intervention et dans les discussions qu'il y a eu tout à l'heure, la notion de forme de vie est peu apparue. Alors on a le sentiment que ce qui nous est refusé, ou interdit d'accès, c'est à la forme de vie. Qu'à partir du moment où des formes de vie qui échappent à la gouvernementalité telle qu'elle est là aujourd'hui apparaissent, elles sont immédiatement réprimées.
Ben, moi, je crois qu'il y a une cohérence entre les deux. On peut d'autant plus organiser d'autres formes de vie qui sont alternatives aux formes de vie structurées autour de la dépression et de la peur du modèle dominant, qu'on s'entraide mutuellement sur la force de vie, sur l'éros. Et on peut avoir d'autant plus une imagination créatrice sur de nouvelles formes de consommation, de transport, d'habitat, de mode de vie, etc., qu'on est habité par cette logique de force de vie. Sinon, on a vite fait de tomber dans ce qu'on peut appeler le militantisme sacrificiel, où les lendemains sont censés chanter, mais en attendant, on est en fait complètement habité par des logiques puritaines.
Lorsqu'on parle du ralentir, c'est aussi une autre manière de parler, disons, de quelque chose de la décroissance, hein, c'est-à-dire aussi de sans doute moins produire ou mieux produire, moins et mieux produire. Souvent, on l'associe, on le dit plutôt du côté de... On renvoie la balle à l'industrie, je ne sais pas, l'industrie automobile. On l'envoie du côté de l'industrie productiviste. Et en même temps, Par exemple, Radio Grenouille, c'est une radio, et puis c'est aussi une radio culturelle, c'est donc un acteur culturel, on pourrait se dire, mais finalement, dans le champ de la culture, on produit aussi énormément. Or, on produit finalement intensément, énormément, autant que les producteurs de voitures, d'une certaine manière. Est-ce que, du coup, se ralentir, c'est aussi, et cette décroissance, c'est aussi se l'imposer à soi-même, et c'est aussi produire moins chacun?
Ben, c'est pour ça que moi, je préfère avoir des dénominations positives telles que sobriété heureuse, telles que transition vers des sociétés du buen vivir, que des dénominations négatives telles que décroissance. Parce que dans une société du buen vivir, il y a quantité d'éléments qui vont croître. Ce qui va évidemment décroître, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'hubris en matière énergétique, en matière d'économie spéculative, en matière d'immobilier fou, etc. Mais à côté de ça, il va y avoir de gigantesques pôles de progrès et de croissance dans l'ordre du savoir-être, dans l'ordre éducatif, dans l'ordre de la santé, etc. Et par exemple, la question du ralentissement, elle fait partie du buen vivir. C'est-à-dire considérer qu'il faut coopérer pour ralentir, arrêter de confondre les logiques d'urgence qui peuvent être légitimes avec les logiques de précipitation. Ça veut dire par exemple que ce qu'a été pendant longtemps la lutte du mouvement ouvrier contre ce qu'on appelait les cadences infernales devient aujourd'hui un objectif des mouvements citoyens. Mais c'est pas ralentir pour ralentir, c'est ralentir au service du bien-vivre. C'est pas décroître pour décroître, c'est décroître sur les formes de croissance mortifères et destructrices et croître au contraire sur les éléments qui vont permettre un progrès dans l'ordre de la qualité d'humanisation.
Mais dans l'idée aussi de la co-construction, comme vous le disiez dans votre intervention, c'était aussi que dans la co-construction, ça évite les doublons. C'est-à-dire que je peux d'une certaine manière aussi ralentir.
Bien sûr, ça c'est l'intérêt justement de toutes les plateformes de convergence citoyenne. On en a un bel exemple ici. C'est la même tentative qu'on retrouve au niveau international avec les forums sociaux mondiaux. Au niveau national, c'est la tentative du collectif pour la transition citoyenne et des états généraux pour un pouvoir citoyen. C'est que dès que on met ensemble dans un même espace l'ensemble des initiatives, ben, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de tout faire et qu'on pourrait faire beaucoup moins et beaucoup mieux en étant par ailleurs en appui avec les autres initiatives et en évitant de doublonner. Et à ce moment-là, on peut aussi s'alléger, on peut aussi ralentir et on peut aussi construire du buen vivir dans nos propres actes citoyens.
Patrick Vivret, vous aimez beaucoup les maximes. Et alors, je ne vous donnerai pas une maxime, car vous en avez beaucoup, mais plutôt le début d'un poème de Gerasim Luka, qui a comme émergé un petit peu dans votre intervention. Sortir sans s'en sortir.
Oui.
C'est le titre d'un poème de Gerasim Luka.
Oui. Oui, je trouve que c'est une bonne formulation, parce que il nous faut à la fois sortir de l'insoutenable, mais en même temps épouser pleinement la condition humaine. Arrêter de vouloir s'en sortir au sens où, par exemple, le transhumanisme aujourd'hui est dans un fantasme de sortie de la condition humaine avec une post-humanité complètement robotisée, etc. Ce qui fait le destin de l'humanité, c'est aussi, par exemple, d'avoir à affronter la question de la vie, la question de l'amour, la question du sens, la question du désir. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le métier d'être humain, pour reprendre une belle expression d'Alexandre Jardin. Et ça veut dire non pas s'en sortir, mais au contraire épouser pleinement la condition humaine. Et des sociétés du buen vivir sont, en ce sens-là, des sociétés où des êtres humains peuvent vivre pleinement debout leurs propres conditions humaines dans la vie et pas simplement dans la logique de survie.
Alors, pour terminer cet entretien, je vous laisse peut-être terminer avec une maxime.
Ah ben, moi, l'une de mes maximes préférées, c'est celle d'Alexander Lowen qui disait « Traverser la vie le cœur fermé, c'est comme faire un voyage en mer au fond de la cale. Donc je pense qu'un des enjeux de la citoyenneté créatrice et vivante, c'est effectivement d'inviter les êtres humains à monter sur le pont et à vivre pleinement cet émerveillement du voyage de vie dans l'univers de façon consciente qu'est l'humanité.
Merci beaucoup Patrick Vivret. Je rappelle cette rencontre autour des rêves, résistance, expérimentation, vision transformatrice, ce que vous appelez le trépied, n'est-ce pas ? Trépied des initiatives citoyennes et des convergences de ces initiatives citoyennes. Je rappelle également ces ouvrages, reconsidérer la richesse. Pourquoi ça ne va pas plus mal ? Et peut-être un ouvrage que vous affectionnez
plus. Le tout dernier, ça s'appelle justement « Vivre à la bonne heure ».
Merci beaucoup Patrick Vivret.
Merci.
C'était un entretien avec Patrick Vivret, réalisé lors des rencontres proposées par l'association La Plateforme, la quinzaine pour la convergence des initiatives citoyennes du territoire. Retrouvez cet entretien en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com.
Les documents de la grenouille. Chroniques, émissions spéciales, sélection musicale, radiogrenouille.com.